RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique. Bienvenue à vous. Ensemble avec Frédéric Rivière. Bonsoir,
bonsoir
Frédéric. Nous recevons dans la seconde partie de cette émission Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Mais notre premier invité est ce soir dans cette première partie, Pouria Amirshahi. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être là. Vous êtes ancien député socialiste des Français de l'étranger, ancien frondeur, l'un des premiers d'ailleurs. Vous avez quitté le PS. Aujourd'hui, la politique pour vous, c'est loin. Enfin, un peu plus loin, on va dire que vous n'êtes plus un acteur politique, mais en tout cas un observateur, puisque vous avez rejoint la revue Politis. Alors, L'hebdo, absolument.
Politis.
L'hebdo Politis. Avant de parler avec vous de politique française, nous allons parler de l'Iran, puisque c'est votre pays d'origine, vous y êtes né et vous y avez vécu dans votre jeunesse. Alors le mouvement de protestation qui a éclaté au mois de décembre est en train de s'essouffler. Déjà, j'aimerais savoir comment vous analysez cette crise. Certains disent, dans le fond, qu'elle est plus économique que politique. Comment regardez-vous votre pays d'origine ?
Bon, d'abord, toujours avec intérêt, parce que c'est mon pays d'origine, mais aussi parce que c'est un pays qui compte dans la géopolitique du moment, et pas que dans la région. C'est un pays qui est fascinant, parce qu'il est, il a une histoire pluriséculaire, parce qu'il a une tradition d'État que n'ont pas les pays alentours, et parce qu'il y a une société civile bouillonnante avec un haut niveau d'éducation. Ce qui change beaucoup de choses par rapport à beaucoup de pays.
Mais beaucoup de chômage, par exemple, pour les jeunes.
Bien sûr.
30 à 50%.
Comme par ailleurs, malheureusement, beaucoup de pays dans le monde entier. Donc, c'est un pays qui est traversé de contradictions. Une des contradictions, elle se voit tout de suite là, économiquement, pour répondre à votre question, puisque la levée des sanctions, même progressives, engagée timidement après l'accord sur le nucléaire, n'a pas pour le moment eu les effets escomptés dans la population iranienne. Et en tout cas, les impatiences se font toujours plus grandes. La vie est chère, des informations que nous avons tous. Elle augmente très vite, y compris pour les biens de première nécessité, les biens de consommation. Et la trouille du régime, c'est que ces mouvements de contestation sociale, économique, qui sont pas nouveaux, hein. En Iran, il y a régulièrement des grèves dans les transports ou dans des grands secteurs industriels qui sont encore forts, que cette contestation sociale rejoigne la contestation de la jeunesse et des intellectuels en général, qui sont plus dans un mouvement d'émancipation politique par rapport à la théocratie. Ouais. Et c'est cette jonction qu'ils veulent à tout prix éviter. D'où la répression très forte dès le départ et la tentative de tuer dans l'œuf toute tentative d'éclosion de ce mouvement.
Mais pour vous, aujourd'hui, les racines du mouvement social, elles sont plus précisément dans ces difficultés économiques ou dans la pression religieuse dont veulent s'émanciper, en particulier les jeunes ?
Alors, je ne veux pas faire une réponse bateau, mais vraiment, je crois que c'est les deux en même temps. Parce que, d'abord, la nouvelle génération, y compris de gens qui...
Par exemple cette image que vous avez vue de cette jeune femme qui brandit son voile en haut d'un bâton, qui est une image assez emblématique. Ça, c'était très fort comme signal, non ?
Oui, alors, qui n'est par ailleurs pas une image propre à ce mouvement-là, mais qui a été utilisée, ouais, par certains. Mais oui, il y a une envie de ne plus être gouverné par la religion, pour une bonne partie.
Donc une révolution à l'envers. Il pourrait y avoir...
Oui, c'est pas étonnant pour une génération qui naît après la révolution, mais qui en même temps, vous l'avez vu, a compris... Quand on a goûté au bâton, ce qui est arrivé en 2009, lors de la dernière grande révolte...
À l'époque d'Ahmadinejad.
Exactement, qu'on appelait le mouvement vert, la répression était sanglante, a été très dure. Donc, cette fois-ci, les mots d'ordre ont été un peu biaisés, c'est-à-dire que c'était pas une attaque frontale contre le régime, mais une demande de prise en compte du niveau de vie, des revendications économiques et sociales. Mais il n'empêche que, au fond... l'impopularité des dirigeants est grande, que l'envie de liberté est forte et que les moyens d'expression de cette liberté sont de plus en plus nombreux. Pas simplement à travers les réseaux sociaux, mais dans le monde de l'art, on le voit dans le cinéma. La France est un des pays qui soutient le plus le cinéma d'auteur iranien, qui est un des véhicules de la contestation, ne serait-ce qu'esthétique, des formes de pouvoir actuelles en Iran.
Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui en Iran ? Est-ce que le pays est à un carrefour de son histoire ?
Oui, et il peut arriver des choses tant de l'intérieur, bouleversement interne du régime. On ne sait pas ce que va devenir Rouhani, qui est menacé des deux côtés pour le moment, puisque la légitimité dont il procède, qui est réelle, populaire, après un vote, s'affaiblit parce que l'impatience est grande, tandis que les mollahs et les tenants du régime,
les gardiens de la révolution,
sont très durs,
qui ont la main,
exactement, ne veulent rien lâcher. Mais il y a l'extérieur aussi. Ce qu'est en train de faire aujourd'hui Donald Trump d'une part et le prince héritier en Arabie Saoudite d'autre part, dans une alliance quasi explicite avec Israël enfin, ce trio israélien, saoudien et américain, peut avoir des conséquences très graves s'il n'y a pas des stratégies d'empêchement d'une conflictualité directe et ouverte avec l'Iran que cherchent manifestement les trois pays en question, c'est-à-dire Israël, pour les raisons que l'on sait, Israël a peur du poids grandissant de l'Iran. Les Saoudiens, pour les raisons d'espace géopolitique et de contestation du poids iranien, qui est aussi de plus en plus important, et les États-Unis pour des raisons encore plus complexes que cela. Et il faut sans doute d'ailleurs que la France et d'autres pays qui ont encore voix au chapitre, notamment à l'ONU, puissent empêcher une stratégie de déstabilisation de l'Iran et de la sous-région. Mais c'est un piège.
Il ne peut pas y avoir d'équilibre régional sans un Iran fort ?
Je ne crois pas. Et ce que cherche en tout cas Trump, c'est comme ce qu'avaient fait d'une certaine façon ses prédécesseurs, notamment les Bush, c'est une déstabilisation, car pour aller vite, on règne mieux en divisant. C'est une région qui est encore riche de ses sous-sols, qui est encore riche
Du pétrole, la manne pétrolière, la rente pétrolière, et qui va dans les poches de l'élite.
Bien sûr.
Au détriment de la population.
Bien sûr, la corruption est très, très forte. C'est ça qui est intéressant dans la question iranienne, c'est qu'on veut à la fois que le régime change. Et c'est, je crois, une aspiration profonde de la population. Et en même temps, c'est pas qu'on veut une stabilité, c'est qu'on ne veut pas de guerre. Et qu'on ne veut pas, en tout cas, que des conflits de ce type servent, en vérité, les intérêts de courte vue, en particulier des Saoudiens aujourd'hui. Mais il faudrait pour ça une grande...
De toute façon, la guerre entre chiites et sunnites...
Je crois que c'est plus compliqué que ça. Ça, c'est un peu un résumé, à mon avis, simpliste. Mmh. En vérité... Pourquoi les Saoudiens étaient vraiment opposés à la levée des sanctions ? Parce que ça veut dire qu'ils les ont en concurrent commercial. C'est-à-dire que c'est une puissance commerciale qui s'affirme dans la région. Or, pour le moment, le commerce est tenu, hormis le Liban, qui est particulier pour plein de raisons, par les Israéliens, les Saoudiens, qui sont stables. Donc, il y a là une concurrence économique rude. Mais c'est vrai qu'il y a une dimension chiite, entre guillemets, dans la géopolitique. Et il faut pas nier que l'Iran, aujourd'hui, avec la Syrie, avec le Hezbollah au Liban, joue aussi un jeu très dangereux. Défendant certes peut-être ses intérêts, mais sans doute pas les intérêts des populations dans lesquelles il agit par milices interposées. Donc tout ça est complexe. Mais le pire en politique, c'est le contraire en politique étrangère, c'est de piétiner la diplomatie par des conflictualités ouvertes. Mais là, on est dans un moment de grande fragilité de l'Iran. Et je pense que les Iraniens auront beaucoup à dire, que ce soit ses dirigeants dans la subtilité diplomatique qu'on leur connaît, mais aussi le peuple dans sa capacité à faire reculer le régime sur ses fondamentaux. C'est ça le plus important.
Pour revenir d'un mot sur les événements de ces derniers jours, et peut-être pour clore le chapitre, le pouvoir apparemment aujourd'hui est divisé sur la réponse judiciaire qu'il doit apporter aux événements. Il y a eu quand même 1000 arrestations. Que doit-il faire, selon vous ? Est-ce qu'une réponse judiciaire trop ferme pourrait relancer la mobilisation ?
En tout cas,
qui s'essouffle, on l'a dit.
Oui, en tout cas, le durcissement du régime, en tout cas de son aile la plus dure, n'aura pour ses conséquences qu'un accroissement du fossé qui sépare l'opinion, donc le peuple iranien, de l'élite et du régime. La question, c'est à quel moment ce peuple et cette opinion se retournera contre le régime. On n'en sait rien. L'idée qu'ont les plus durs, c'est de gouverner par la peur. Mais la peur ne tient jamais longtemps quand une génération, de façon...
Et elle peut changer de camp.
Oui, voilà, et de façon inexorable, visiblement.
Alors, vous parliez de politique étrangère. On va parler cette fois de politique. Vous avez donc abandonné la politique il y a un an, enfin en 2016, même un peu plus. Pourquoi ?
D'abord parce que on ne peut pas vivre, selon moi, de la politique. J'ai été pendant 5 ans député et avant j'avais d'autres métiers, dans le travail social, dans la culture, la bande dessinée à Angoulême par exemple, ou dans l'économie sociale et solidaire, dans le développement durable aussi. Bref, je voulais renouer avec le fil d'une activité personnelle. Ça, c'est un choix personnel de vie. Ouais. Mais je reste profondément engagé, je suis un citoyen concerné. Et j'ai longtemps été militant. D'une certaine façon, je vais rester engagé. Mais le monde des partis me fatiguait. Les discours tout faits, pour la langue de bois, pour aller vite, les éléments de langage, comme on dit.
C'est vous les responsables. les politiques de cette langue de bois. Personne ne vous force à en faire.
Non, mais je ne crois pas en avoir fait. En tout cas, peut-être que j'ai été victime moi-même de ce que je dénonce là.
Pas vous,
pas non, mais je, comment dire, il y avait besoin de prendre, pour moi en tout cas, un peu de recul par rapport à ce que signifiait l'engagement politique, l'action politique, dans le rythme effréné d'une actualité qui noyait un peu les points de vue, noyait un peu le sens d'une action longue. Quand on fait de la politique, c'est pour le bien commun, en tout cas c'est mon opinion. La démocratie, c'est un peu la dispute organisée. Bon, la dispute était de moins en moins organisée, on n'y voyait pas clair.
Surtout au Parti Socialiste ?
Moi, partout, au Parti Socialiste comme partout. Mais disons que je ne me retrouvais plus dans un rythme d'engagement, mais je ne me retrouvais pas non plus dans les fondamentaux du Parti Socialiste. C'était aussi une des raisons de ma rupture.
Quand vous êtes parti en mars 2016, vous aviez dit « je quitte le PS et le monde des partis en général », rhizome d'un système institutionnel. Alors, les rhizomes, ce sont des racines. J'ai regardé. C'est intéressant, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est plein de ressources, les rhizomes. Ouais. Ça se ramifie. De nouvelles plantes, de nouvelles végétations peuvent en sortir. Donc,
il y a
peut-être encore de l'espoir. Rhizomes, disiez-vous, donc, d'un système institutionnel à bout de souffle. Ils sont devenus des machines électorales sans grande conviction, sans promesse d'avenir heureux pour le pays. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas finalement prouvé le contraire, qu'on pouvait encore emmener du monde, partager, alors le mot rêve est peut-être un peu fort, mais enfin quelque chose qui ressemble à ça?
Bon, en tout cas, dans une campagne électorale, il y a toujours une part de rêve, et sans aucun doute, Emmanuel Macron a incarné à un moment donné cette possibilité de renouveau. Et ce qui était à l'ordre du jour à l'époque, le dégagisme que Mélenchon avait théorisé, d'une certaine façon, c'est Macron lui-même qui l'a inspiré.
Ouais.
Et je pense que l'espoir n'est jamais perdu. Moi, je n'ai pas perdu définitivement. Je ne veux pas, d'ailleurs, délivrer de messages pessimistes. Je dis juste que, au contraire même, je pense qu'il faut s'engager, il faut croire. Voilà, il faut croire dans toutes les possibilités heureuses que nous offrent aujourd'hui les savoirs, les connaissances, les techniques, pour tendre vers le bien commun, au moment où tout est possible, le meilleur, mais aussi à l'heure des dangers. On évoquait des problèmes géopolitiques, mais voilà, on voit la crise environnementale, on voit la raréfaction de nos ressources naturelles, on voit des dangers graves, des crises qui se profilent devant nous, ou que nous traversons, et la politique doit y répondre. C'est ce qui doit en faire la grandeur.
Donc, est-ce que c'est pas ce qu'Emmanuel Macron fait en ce moment, c'est-à-dire qu'il s'attaque, il s'attaque au sujet qui, on va dire, ont plombé la France depuis des années, l'immobilisme politique, économique, est-ce que aujourd'hui vous dites il prend quand même la part cette part-là?
Alors, moi, je veux bien reconnaître des qualités à Emmanuel Macron, dont je ne partage pas toutes les thèses, loin de là, mais je me méfie aussi de cette idée qu'on lutte contre l'immobilisme parce qu'on bouge tout le temps. Sarkozy avait déjà fait ça.
Il a eu la crise.
Peut-être, mais c'est pas parce qu'il bouge beaucoup, et il bouge beaucoup, il a l'âge pour lui, il est sans doute talentueux, il est énergique. Mais pour le moment, ce que, en tout cas moi j'attends d'un président de la République, c'est qu'il réponde aux grands défis que sont les inégalités dans notre pays. Pour l'instant, ses choix fiscaux ne sont pas en mesure d'y répondre, selon moi. Ouais. Qu'ils sont en situation de proposer un autre chemin pour une Europe malmenée, en crise, qui doute d'elle-même. De ce point de vue, il est en train d'occuper un espace, incontestablement. Et sur le reste, il est dans les habits de la Ve République. Je reviens à la question de Frédéric Rivière tout à l'heure, c'est-à-dire du président qui décide de tout, qui s'installe dans cette verticalité du pouvoir et qui épuise le système démocratique français, qui épuise la démocratie française. La démocratie française...
Mais en quoi il l'épuise? Parce qu'il a été élu démocratiquement. On entend ça souvent, cet argument qu'il n'a pas... En quoi
non,
il ne serait pas démocratique?
Oui. C'est pas lui plus qu'un autre.
Alors à ce moment-là, ce sont les institutions qui ne vont pas.
Exactement.
C'est pas de sa faute.
C'est pas de sa faute, sauf qu'on peut aussi prendre... On peut avoir l'audace de vouloir mettre de l'air frais dans la démocratie française. C'est quoi concrètement, au-delà de la formule? S'appuyer sur les ressources vives du pays. Vous avez de nombreuses associations, de nombreuses ONG, de nombreuses entreprises qui innovent, qui déposent des brevets, etc., sur lesquelles il faut s'appuyer pour que la société française construise ses réponses positives de demain. Ça vaut dans la science, ça vaut dans la culture aussi. Pour le moment, nous avons toujours un système très français, très vertical, que ne renierait ni De Gaulle, et pour cause, ni Bonaparte, et ni d'autres, qui consiste à faire converger vers l'omnipotent. Ça me pose un problème, car je considère que la société française est beaucoup plus adulte que cela. Et donc, sans remettre simplement à un homme providentiel, un homme ou une femme, en l'occurrence un homme, tous les 5 ans, est à mon avis dramatiquement infantilisant. Ça ne veut pas dire que Emmanuel Macron est stupide. Il sait ce qu'il fait. Il a sans doute des cultures, des valeurs. Bon, mais voyez-vous, même là-dessus,
la vertu de ce système, c'est la stabilité politique aussi.
Pour l'instant, le système n'était pas si stable que ça, en fait, quand on regarde. Ou alors, je veux dire par là que il est stable dans la mesure où les gouvernements se suivent et se ressemblaient plus ou moins. Oui. En ce sens-là, il est stable. Mais on n'a pas le sentiment de s'engager vers des grandes ambitions qui se, en termes de transformation démocratique du pays, qui se passent d'un quinquennat à l'autre et qui se poursuivent ou qui s'approfondissent. Je vous donne un exemple sur le rapport à la politique. Sans doute Emmanuel Macron a-t-il...
On parle du PS aussi.
Oui, on peut. Oui. Emmanuel Macron, il avait un côté très libéral économiquement, que je récuse, en tout cas que je n'apprécie pas. On croit pas qu'on améliore qu'on réduit les inégalités en étant plus favorable à ceux qui ont déjà beaucoup. Bon, mais il l'avait annoncé. En revanche, il y a des sujets sur lesquels, et là, il renoue avec la vieille politique, c'est-à-dire on prend des engagements et on leur tourne le dos, qui sont dramatiques pour la démocratie, dans un autre domaine qui était celui dans le rapport aux immigrés, dans le rapport à la laïcité, dans le rapport aux migrants, à des sujets de société, dits de société, sur lesquels il n'était pas dans l'hystérie que ses prédécesseurs, je pense à Manuel Valls en particulier, avaient pu cultiver. Et là, sur ces sujets, il revient un peu en arrière et il commence à épouser lui-même, à travers Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, des habits de dureté qui n'étaient pas du tout de l'ordre du discours qu'il avait pendant la présidentielle.
Alors, nous aussi, on va vous ramener un peu en arrière, au PS. Vous gardez un œil sur ce qui se passe aujourd'hui?
Un peu, oui.
Ça vous intéresse, la reconstruction? Vous avez l'impression que c'est en marche?
Non.
En marche, oui, bien sûr.
J'ai compris.
En route, allez.
Non, je pense que le Parti Socialiste, comme d'autres, c'est pas le seul, a des lourdeurs de pensée, d'abord. Je ne sais pas ce que pense le Parti Socialiste du monde qui l'entoure. C'est quand même un problème pour un parti de fonctionnement. Mais il est là. Il existe, après une terrible défaite, il y a encore un appareil, comme on dit, des femmes et des hommes qui ont décidé d'y rester. Ces hommes et ces femmes ne vont pas disparaître du jour au lendemain, donc ils vont contribuer. À quelle échelle, je ne sais pas.
Les partis sont résilients, comme les êtres humains, dans le fond.
Ils ne sont pas immortels. Alors, on peut toujours
survivre. Comme les êtres humains aussi.
Oui, c'est ça. On peut toujours, comme le Parti radical, survivre encore un siècle après. Mais enfin, on peut aussi rester très petit pendant très longtemps. C'est ce qui peut arriver au PS. Ça dépend de sa capacité à s'inscrire dans la modernité du temps, comprendre sa société et ne pas considérer que le parti, lui, sait exactement ce qu'il faut. D'ailleurs, il a fait la démonstration qu'il n'était visiblement pas en mesure de gouverner très longtemps. En tout cas, les gens n'ont pas...
Manuel Valls parlait de ces deux gauches irréconciliables, hein, selon son terme. Vous dites qu'il faut que la grande séparation entre sociaux-démocrates et sociaux-libéraux aille à son terme. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Ça.
Qui se scindent. Oui, mais si par exemple, il y a Stéphane Le Foll qui est donc candidat pour reprendre la tête du PS. Vous le mettez dans la case sociale-libérale, j'imagine, puisqu'il était auprès de François Hollande.
Oui.
Donc,
il y a Emmanuel Morel, qui est un de vos amis, hein, qui vous avait frondé. Bon, lui, vous le mettez dans l'autre case, alors.
Oui.
Chacun chez soi,
comment ça se passe, quoi.
Eh ben, ça participe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je crois que le Parti Socialiste va avoir un problème longtemps, aussi longtemps que durera cette confusion. Vous soulevez du doigt, hein, le problème, principal.
Et très vieux du Parti Socialiste.
Oui, mais sauf que
très ancien.
On peut rassembler et réunir des courants de pensée différents dès lors que sur l'essentiel, une méthode de transformation, les objectifs de transformation de la société et les moyens de cette transformation sont acceptés par toutes et tous. Bon. Lorsque vous n'êtes plus d'accord sur la laïcité, lorsque vous n'êtes plus d'accord sur les choix économiques, lorsque vous n'êtes plus d'accord sur le rapport à la sécurité, lorsque vous n'êtes plus d'accord totalement sur les choix de politique étrangère, objectivement, autant se replier, prendre le temps de développer auprès de l'opinion en direct, directement, ses idées, les tester, les sonder, médiatiquement ou lors des élections, et viendra le moment où de nouvelles synthèses politiques se formuleront.
Mais là, on n'en sort pas des synthèses du Parti Socialiste, ça fait 60 ans que ça dure.
Oui, je viens de vous dire qu'il faut justement arrêter de faire des fausses synthèses. Pour faire semblant d'être tous ensemble, prendre le temps d'assumer des divergences. Après tout, la démocratie est faite de débats, de différences. Donc assumons ces différences plutôt que de faire semblant d'être d'accord. Mais moi, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux qu'il peut arriver. Et à Emmanuel Morel, que j'apprécie beaucoup en effet, et à Stéphane Le Foll, que je connais bien. Mais Faire semblant d'être d'accord juste pour sauver comme ça un appareil, au nom de son histoire, n'a pas beaucoup de sens, à mon avis. En tout cas, ça ne répond pas à la modernité des temps qui viennent et aux attentes de la population française.
Voilà, et c'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. On se retrouve dans un instant avec Nicolas Dupont-Aignan.
RFI et France 24 présentent
Mardi Politique.
Retour dans Mardi Politique avec Frédéric Rivière. Nous recevons notre deuxième invité. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan.
Bonsoir madame.
Vous êtes président de Debout la France et vous êtes député de l'Essonne. Alors Debout la France, c'est votre parti coincé entre le Front National et les Républicains. Droite souverainiste, une droite qui n'aime pas tellement l'Europe. On le sait, vous avez tenté en pleine campagne présidentielle de faire un ticket avec Marine Le Pen, qui a tourné court. Aujourd'hui, elle vous fait encore les yeux doux. Mais vous habitez où aujourd'hui, vous, Nicolas Dupont-Aignan ?
Je suis gaulliste, j'ai pas changé. J'ai quand même rassemblé près de 2 millions de Français à la présidentielle. Les sondages me donnaient 1%. On a été presque à 5. J'ai un parti qui bénéficie du financement politique, des milliers d'élus locaux. Nous n'avons jamais eu autant d'adhésions. Je ne me situe pas du tout comme coincé, comme vous le disiez, entre le Front National et les Républicains. Je crois que face à la recomposition
mais
politique...
Mais si vous voulez changer les choses, vous accédiez au pouvoir. Donc est-ce que... Parce que prêcher vos idées un peu dans le désert,
mais c'est pas dans le désert. Avoir 2 millions de Français qui me suivent, c'est pas dans le désert. Je milite, oui, pour une union de ce que j'appelle les amoureux de la France.
Nouveau mouvement, ça ?
C'est pas un mouvement, c'est une plateforme internet qu'on a lancée avec plusieurs personnalités et qui vise tout simplement à prendre acte du souhait de nos électeurs, à prendre acte de la recomposition politique qui est en cours. Parce que il s'est passé quelque chose à la présidentielle. Mmh. Emmanuel Macron a rassemblé ceux qui gouvernaient la France depuis 20 ans, avec les résultats que l'on sait, les a fait passer avec un tour de magie assez exceptionnel pour modernes, alors que ce sont que les enfants de ceux qui nous ont ruinés. Ceux de droite et de gauche, la gauche mondialiste, la droite mondialiste, européiste si vous voulez, qui se croient modernes, il les a rassemblés, il a au moins fait ça. Ils sont tous ensemble. Quand ils vont faire naufrage, et quand les Français seront lassés, on sera débarrassés. Mmh. Monsieur Mélenchon a pris acte de ça et a réunifié la gauche radicale. Et à droite, c'est le chacun pour soi. Et c'est vrai que j'aspire à une union qui aille des Républicains qui ne vont pas chez Macron, au Front National qui se rénove, avec Debout la France, pour que l'on puisse forger une coalition qui s'entend sur l'essentiel. Mais Nicolas, et l'essentiel, pardonnez-moi, c'est ce que me disent les électeurs. Les électeurs, je croise, ils me disent, on a voté Républicain, parfois on a voté Front National, parfois Debout la France. Mmh. On est d'accord sur les frontières, on est d'accord sur le besoin d'une autre Europe, on est d'accord sur le besoin d'aider les territoires qui sont en train de crever,
on va évoquer tout
etc.
Ça.
Mais donc voilà, il faut faire cette union.
Est-ce que vous n'auriez pas dû faire les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire travailler à cette union, au lieu de vous allier au deuxième tour avec Marine Le Pen, est-ce que cette démarche-là, elle ne vous a pas fait perdre votre singularité et aussi une part de votre respectabilité?
Alors, quelle respectabilité? On est en démocratie.
Vous le savez, vous l'entendez.
Mais je vais vous dire, j'en ai pris plein la figure.
Alors,
non mais je vais vous répondre.
Répondez-moi
si vous permettez
sur
de
la
répondre.
Respectabilité d'abord, si vous voulez, mais n'oubliez pas la singularité, non, parce que vous aviez une position singulière.
Mais je reste le même. Et je vais vous dire, j'en ai pris plein la figure. Je n'ai jamais compté autant d'adhérents à Debout la France. Nous avons quasiment eu une augmentation de 50%, 5 000 adhérents de plus. Les cotes de popularité que je regarde quand même, parce qu'on regarde tous, n'ont jamais été aussi hautes. Le dernier sondage, le seul parti d'opposition à Macron qui progresse, c'est le nôtre. Alors vous allez me dire, c'est pas grand-chose, 6% aux européennes. 6%, mais
oui, je vois que les Républicains... Le Parti Socialiste est à 8.
Je vois que les Républicains sont à 12, de M. Wauquiez, qui a 1000 fois plus de temps d'antenne que moi. Et je vois que Mme Le Pen affronte un certain recul. Cela veut dire quoi ? Oui. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire que les Français voient très bien qui je suis, ce que j'ai fait. Moi, je suis fier de ne pas être un lâche et d'avoir choisi au second tour. J'ai fait mon choix. Je l'assume. Pour autant, parce que j'ai eu le courage de faire ce choix.
Pourquoi vous avez fait machine arrière après, alors ?
Mais j'ai pas fait machine arrière. Ça, c'est le... Il y a eu une espèce de délire médiatique, pardonnez-moi.
Oui.
Qui a voulu faire de moi une espèce de nouveau Front National. J'ai dit, Reprenez le discours de Villepinte.
Non, c'est pas
j'ai
vrai
dit je... aux membres du Front National, je n'irai pas au Front National. Je vous soutiens au second tour parce que je fais un choix, comme les électeurs. D'ailleurs, ils ont été plus de 10 millions à faire le même. C'est pas négligeable. Et en revanche, je demande une union, une coalition qui tire les leçons de l'échec de la présidentielle. Et je demande un programme plus sérieux, un programme qui entende le besoin...
Quand vous dites plus sérieux, par rapport à quoi, hein? À celui de Marine Le Pen?
Par rapport au programme initial, mais j'avais déjà infléchi pas mal les choses, puisque, souvenez-vous, j'étais le responsable de l'infléchissement sur la sortie de l'euro.
Et donc peut-être et le responsable de ce fiasco lors du débat.
Non, je n'étais pas au débat.
Alors elle n'a pas bien compris,
écoutez,
on lui a mal expliqué, qu'est-ce qui s'est passé?
Je ne vais pas revenir dessus, je ne suis pas là pour enfoncer quiconque.
C'est quand même effectivement votre idée qui au cours du débat est apparue invraisemblable dans la bouche de Marine Le Pen. Personne n'a rien, non, mais personne n'a rien
tout
compris.
Tout au long de la campagne, je l'ai développé très bien et tout le monde l'a compris. J'ai dit simplement...
Donc elle l'a mal expliqué alors.
Je ne rentrerai pas là-dedans, je ne suis pas là pour faire des leçons aux uns aux autres. Je suis là maintenant pour dire... Face au mondialisme destructeur que les Français vont payer très cher d'Emmanuel Macron et les retraités vont comprendre la fin du mois et tous les autres, il y a une alternative à bâtir. Cette alternative, elle viendra d'un programme de redressement national sérieux, serein, qui rassure les Français qui n'ont pas été convaincus au second tour. Ce programme, avec la plateforme Les Amoureux de la France... 1 500 000 connexions. 1 500 000 connexions, c'est considérable. Des électeurs de partout. Eh bien, nous allons le forger. Et nous allons le forger avec la base, avec le terrain, pas avec les grands chefs. Monsieur Wauquiez veut pas parler Madame Le Pen. Monsieur Philippot, il a quitté Madame Le Pen.
Oui, donc ça, pour votre coalition, ça va être compliqué pour votre coalition.
Mais la coalition, elle va se faire à la base. Monsieur Macron, il a fait comment? Il a demandé l'autorisation de Monsieur Hollande? Et de Monsieur Valls? Non, il a fait le boulot. Avec la base. Eh bien, moi, je le dis très clairement aux électeurs de droite, qu'ils soient républicains, Front National, Debout la France, on est d'accord sur 90% des.
Mais il y a un moment, il faut bien que ça
se mette d'accord.
Non, mais d'accord, mais il y a
par la base.
Oui. Non, mais il y a un moment, il faut bien que ça soit structuré.
Vous voulez faire ce qu'a fait Emmanuel Macron, au fond.
En quelque sorte, dans la démarche, je veux qu'on arrête avec les querelles de clochers, d'égo, de partis. Je veux que Républicains, Front National, Debout la France, Chrétiens démocrates et d'autres,
Philippot
on
aussi.
Se mette autour, oui, bien sûr, autour de la table. Et qu'on dise entre eux, Monsieur Macron, Monsieur Mélenchon et nous, il y a une différence. Et si on veut pas, si on veut pas être rayé de la carte demain et assister à un second tour en 2022, ouais. Macron-Mélenchon, on a intérêt à se réveiller. Et il y a des millions d'électeurs de droite et au-delà de la droite, de patriotes républicains qui aiment la France, qui en ont assez de voir nos divisions. Et donc moi, je serai le militant inlassable
tout ça
de l'unité.
Serait derrière vous.
Pas derrière moi. Je l'ai dit très
leader,
clairement.
Non.
D'abord, on se met d'accord sur un projet politique.
Enfin, celui qui lance l'initiative, en général, c'est
non,
le patron.
Non, vous savez, qui en 2016 pensait qu'Emmanuel Macron serait élu?
C'est lui qui a lancé cette initiative.
La question des
donc
personnes...
Vous prenez exemple sur Emmanuel Macron, donc c'est à vous
je
entendre.
Je dis qu'il y a un vieux monde politique qui s'effondre. Je dis que le vrai clivage qui émerge, et qui me réjouit parce que c'est le clivage réel, est entre ceux qui veulent conserver une France... maître de son destin, socialement juste, qui inclut tous les territoires, et ce mondialisme destructeur qu'est en train de mettre en œuvre Macron. Et je le dis, les Français vont le comprendre au fil du temps, ils vont comprendre qu'Emmanuel Macron, c'est finalement un jeune président pour une très vieille politique, et ils attendent de notre part du sérieux pour bâtir des solutions. On a un peu de temps, laissez-moi du temps au
alors,
temps,
est-ce que vous
et
êtes...
nous le ferons tranquillement.
Est-ce que vous êtes allé toquer à la porte de Laurent Wauquiez?
Mais
lui
je serais ravi
tout ce
de
que
voir Laurent
Wauquiez.
Je lui ai dit déjà, Laurent, tu as fait d'énormes progrès. Tu as compris que cette Europe-là était mauvaise et tu dis enfin ce que je n'ai cessé de dire quand j'étais à l'UMP. Laurent Wauquiez, sur le fond, évolue bien. Mais alors, il a une sorte de blocage psychologique parce qu'il entend la pensée unique et il dit « Ah mais, tous ceux qui ont voté Marine Le Pen ou Dupont-Aignan, c'est le diable. » Alors ça fait quand même 10 500 000 Français qui l'insultent en permanence. Alors je dis à Laurent Wauquiez, soyez cohérent, sois cohérent. Moi je lui tends la main, je veux qu'on travaille ensemble, mais je veux qu'on travaille aussi avec le Front National, je veux qu'on regroupe tout ce beau monde et qu'on parte d'un projet d'alternative sérieux. Voilà,
ce qu'avait fait l'Italie,
mais ce qui se passe en Italie,
l'extrême droite
ce qui s'est passé en Autriche, ce qui va se passer dans toute l'Europe. Donc, il faut un moment qu'on soit sérieux.
Alors, dites-nous à propos de main tendue, si ce que propose Nicolas Bay, le vice-président du Front National, c'était ce matin, si c'est une proposition qui vous intéresse, on l'écoute et vous nous dites.
Nicolas Dupont-Aignan a crédité d'un résultat important de 6%, qui est loin d'être négligeable. Et évidemment, les échanges, le partenariat qu'on a développé à la présidentielle pourrait très bien se poursuivre dans l'avenir. Évidemment, nous sommes dans cette démarche de rassemblement et nous entendons rassembler, notamment aux élections européennes, tous ceux qui veulent une Europe des nations, une Europe des coopérations.
Y compris au travers d'autres
partis. Au lieu d'avoir une Europe de l'impuissance.
Alors,
moi, je me réjouis que le Front National évolue. Maintenant, j'attends que les Républicains évoluent. Parce
mais
que
vous lui dites, banco pour les Européennes.
Mais ça ne peut pas être un face-à-face simplement entre FN et Debout la France. Il faut aussi qu'il y ait les Républicains. Je veux une grande coalition.
Oui, mais c'est une condition sine qua non. C'est-à-dire, s'il n'y a que vous et le FN, vous dites non, il faut qu'il y en ait d'autres.
On verra, laisser un peu de temps au temps. Il y a des leaders
vous
républicains.
Vous ne voulez pas vous compromettre tout seul, en fait, avec le Front National.
Pas me écoutez, s'il y en a un qui a été courageux, qui a pris ses responsabilités, qui n'a pas fait semblant, au second tour de la présidentielle, c'est bien moi. Alors moi, vous savez, je suis très libre.
Rejoindre Marine Le Pen, vous appelez ça du courage ?
Ça a été courageux, oui. Ça a été courageux. Et vous savez,
pourquoi ?
Dans l'isoloir, il y a 10 millions de Français, parce que on était dans la propagande. Il y avait qu'un candidat autorisé. Un seul candidat, Macron. Macron et Macron.
Non, mais vous pensez
les Français avaient
le choix
entre
gagner,
Macron
en fait,
et Macron.
C'est ça,
non, mais c'est pas la question. Je me battais pour des convictions. Tout le monde sait que je veux rétablir des frontières en France. Tout le monde sait que j'ai une vision sociale, que je ne supporte pas cette injustice sociale. Je ne supporte pas cette dureté pour les plus modestes des Français. Tout le monde sait que je ne veux pas qu'on abandonne nos territoires ruraux. Tout le monde sait que je veux une politique étrangère indépendante. Voilà. Et j'ai pris mes responsabilités au second tour. Pour autant, je suis pas Front National. Et je reste ce que je suis. Et on n'a jamais eu autant de monde. Alors, Debout la France se développe dans une démarche d'union et aussi d'opposition à Emmanuel Macron et de proposition. Et c'est à cette condition que les Français, quand ils seront lassés de M. Macron et de sa propagande, se diront « Tiens, il y a peut-être autre chose de sérieux. » Et ce sérieux, eh bien, nous allons le conquérir au fil du temps. Ça, le sérieux, ça ne se décrète pas.
Sur vous parliez de tout ce qui allait se passer en Europe quand on parlait de l'extrême droite, c'est ce qui se passe déjà en Hongrie.
Je ne pense pas que le Front National soit d'extrême droite. Je n'aime pas parce que c'est pas vrai.
D'accord. Voilà, je le comment vous qualifieriez là ?
C'est un parti patriote, mais d'accord, c'est pas un parti d'extrême droite.
En tout cas,
Marine Le Pen pouvait être considérée d'extrême droite.
Et l'Autriche, alors ce qui se passe en Autriche ?
Mais c'est très intéressant ce qui se passe en Autriche. Ça veut bien dire que quand on travaille ensemble, on peut gagner. Ce qui se passe en Italie aux municipales italiennes est très intéressant. Mais vous savez, est-ce que la France va accepter de voir le pays saccagé ? Vous savez, il y a un moment, la vérité, la vraie vie, moi j'appelle la vraie vie... Tiens, j'étais dans un bistrot dans ma circonscription, en Essonne, j'étais réélu. Tous les journalistes de Paris pensaient que j'étais battu. Hein, j'étais réélu, tiens, c'est curieux. Bon, et par des électeurs français qui, voilà, ont vu que j'étais sincère et m'ont fait confiance. Eh bien, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous savez... On coupe la télévision.
C'est vrai que vous avez le même discours depuis des décennies. Ça, on peut pas vous le reprocher.
Décennies, n'exagérez pas quand même.
On se connaît
depuis un certain temps. Donc nous étions ensemble et je n'aurais pas l'outrecuidance de parler de décennies vous concernant. ça fait un certain temps que je défends une certaine idée de la France qui n'est pas hostile à l'Europe, qui veut une reconstruction européenne qui ménage et qui s'appuie sur les nations libres, maîtres chez elles. Mais je reviens... Un monsieur et une dame dans un bistrot ce week-end me disaient, vous savez, il y a la télé.
Ah, les bistrots.
Oui, un bistrot. Ben,
les bistrots.
Les bistrots, c'est un lieu de convivialité.
On apprend les choses quand on est...
Oui, attendez. La vraie vie, me disait, c'est pas ce qu'il y a à la télévision. On éteint la télévision. On ne croit plus ce qu'on nous dit. La vraie vie, c'est...
Ils peuvent regarder Russia Today.
Et oui, heureusement, ça va faire du bien. D'ailleurs, c'est grâce à Russia Today qu'on a su l'agression de Champigny, que le gouvernement, que M. Colomb a caché. Et que les principaux médias de France ont caché, parce qu'il ne fallait pas montrer les images de hordes de sauvages qui étaient en train d'agresser une policière. Et s'il n'y avait pas eu Internet et Russia Today, ça ne passait pas sur les chaînes publiques.
Je vous ai vu sur cette chaîne, Nicolas Dupont-Aignan. Expliquez que vous étiez mal à l'aise de défendre la levée des sanctions contre la Russie parce que vous étiez sur cette chaîne et que donc le soupçon permanent...
Oui, je l'ai dit, je suis franc.
Oui, mais vous voyez bien dans quelle position invraisemblable ça place nos confrères qui s'y trouvent. C'est quand même une position bancale.
Mais oui, vous savez, il y a des chaînes qui se disent françaises et qui sont américaines. Alors, vous savez, la réalité, c'est qu'il faut de la liberté. Et les Français sont juges. Ce que je veux vous dire, très clairement, c'est qu'il y a la vraie vie. Et que malgré la propagande, on n'a jamais connu une propagande à ce point. La vraie vie, c'est l'augmentation de la CSG de 25% à la fin du mois. La vraie vie, c'est l'augmentation de la taxe sur l'essence. La vraie vie, c'est l'insécurité qui explose. Je voyais des policiers ce matin. La vraie vie, c'est l'immigration qui n'est plus maîtrisée. Et donc, moi, j'aimerais qu'on ait des solutions pour régler ces problèmes. Voilà, c'est tout.
Mais il y a la loi immigration-asile du gouvernement.
Qui va dans le bon sens, moi je le dis très clairement, mais qui malheureusement ne peut pas marcher tant qu'il n'y a pas un contrôle des frontières. Et la fin de Schengen, ça sera un des enjeux de notre discussion avec Laurent Wauquiez, avec Nicolas Bay, pourquoi pas, avec Florian Philippot. Il faut arrêter Schengen, il faut rétablir des frontières nationales, il faut développer l'Afrique.
Il faut quoi? Il faut un garde-barrière
Un contrôle comme dans 95% des pays du monde. J'ai vu le ministre marocain ou le ministre algérien qui me disait, nous on contrôle nos frontières, on n'est pas aussi bêtes que vous. Il faut contrôler nos frontières, mais il faut aussi un vrai plan Marshall pour l'Afrique. Il faut régler le problème libyen qui est dramatique, et vous le savez, j'étais l'un des rares qui était hostile à l'invasion de la Libye, que n'ai-je entendu à l'époque, vous voyez, j'ai la constance. Je demande simplement qu'on ait à la fois de la fermeté, de l'humanité pour les demandeurs d'asile, quand ce sont des vrais demandeurs d'asile, et puis une aide au développement majeure, et là l'Europe peut être très utile. Donc je ne suis pas dans l'esprit de système, je veux simplement qu'on règle les problèmes des Français et qu'on ne les cache pas.
Mais sur la Libye, par exemple, là, on a vu récemment, bon, c'est arrivé au grand jour, mais ça, on le savait depuis quand même quelques temps, c'est l'esclavage qui a lieu en Libye. Aujourd'hui, vous seriez à la tête de l'État, vous feriez quoi?
Ah, je m'attaquerais.
Puisque vous dites humaniste.
Très clairement, la première chose que je ferais, c'est de m'attaquer aux barques des passeurs en les coulant. Bien sûr, quand il n'y a pas d'immigrés dessus, c'est-à-dire, vous n'allez pas me dire, vous n'allez pas me dire que l'Allemagne, l'Italie, la France, la Grande-Bretagne, l'Espagne, avec des budgets de milliards d'euros, ne sont pas capables.
Quand vous dites couler, vous les tuez, je
détruis les barques des passeurs parce que j'estime que ce sont des criminels qui précipitent à la mer des malheureux, qui tuent tous les ans en Méditerranée des milliers de personnes.
Donc vous les tuez aussi.
Mais je tue pas, je m'attaque aux passeurs, je m'attaque à ces barques. Attendez, à quoi sert la marine nationale si on n'est pas capable de détruire 250 à 300 bateaux qui sont en train de nourrir un nouvel esclavage? Et puis parallèlement, et c'est très difficile, vous le savez, la situation, et on n'est pas sur France 24 et RFI pour rien, la situation en Libye avec deux pouvoirs, l'extrême difficulté qu'il y a. Moi je n'ai pas une baguette magique, et d'ailleurs j'ai approuvé la rencontre de Monsieur Macron,
de la Selle Saint-Cloud,
qui était une rencontre positive. Donc encore une fois, ce sont des affaires sérieuses. Et je dis simplement qu'il y a une nouvelle politique à mener là-bas.
Un petit mot, Nicolas Dupont-Aignan, de cette étude là de la Fondation Jean Jaurès et de l'Observatoire Conspiracy Watch sur les théories du complot, qui révèle que 8 Français sur 10 adhèrent à au moins l'une de ce qu'on appelle les grandes théories du complot. Alors par exemple, il y en aurait 9% qui pensent que la Terre est plate et non pas ronde, 16% qui pensent que les Américains n'ont jamais marché sur la Lune, mais peut-être plus près de nous, 55% qui sont d'accord avec l'idée que le ministère de la Santé est de mèche avec les laboratoires pharmaceutiques pour dissimuler la dangerosité des vaccins. Qu'est-ce qu'elle nous dit sur la confiance, le rapport aux médias?
Si vous voulez, ce qui est grave dans cette étude, je l'ai lu attentivement quand elle est sortie. Et je me suis fait deux remarques. La première, c'est qu'il y a 75% des Français qui croient que l'information est faussée. 75% quand vous comptez. Et là, c'est votre responsabilité. Et je sais que votre métier est difficile. Et moi, j'ai jamais mis dans le même sac les journalistes. Soyons clairs. Mais vous savez comment est l'information en France. Il y a un problème de liberté de l'information en France. Premier point. Qui est détenu par quelques familles, quelques grands groupes. Et ça pose un vrai problème. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Comme l'information n'est pas vraiment libre dans notre pays, eh bien, il y a des excès. 9% des gens qui croient que la Terre est plate, c'est à tomber par terre. Mais il y a aussi des choses qui ne sont pas du complotisme. Quand j'ai pris position contre l'imposition des 11 vaccins, j'ai été traité de tous les noms par la ministre de la Santé, qui est une ministre curieuse, parce que quand on n'est pas d'accord avec elle, notamment le professeur Montagnier, quand même un des grands chercheurs mondiaux, on est obscurantiste. Eh bien, moi, je dis, je suis favorable à la vaccination, les 3 premiers vaccins, mais j'ai bien étudié la question, les 11 vaccins, c'est dangereux pour nos bébés. Je le dis et je me battrai jusqu'au bout.
Donc l'accusation de complotisme peut être une manière aujourd'hui de faire taire aussi
exactement.
À bon compte, c'est ça que vous dites?
Exactement. Et quand je vois, je vous parlais de Champigny, où ce sont quand même, c'est sur Internet,
en quelques mots,
c'est sur Internet que la vidéo est passée, et que M. Macron veut interdire soi-disant les fake news. Mais qui décide ce qui est une fake news. Qui décide ce que vous...
Ça sera débattu.
Qui va le décider ? C'est la fin de la liberté.
Ça sera débattu. Et c'est la fin de l'émission. Voilà. Merci, Nicolas Dupont-Aignan.
Merci de cette information libre.
Voilà. Et retour de mardi politique. Retour mardi prochain.
Oui. Merci, Frédéric. Merci à vous. Et merci à Camille Néran et à Charlotte Urien-Thomaca et à toute l'équipe technique d'avoir préparé cette émission. Merci.